Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon-Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de version originale dans un format plus court que d'habitude car j'avais prévu deux thématiques différentes, proches, avec deux intervenants différents, mais finalement je n'aurai qu'un seul invité, Mathieu Renaud. Aujourd'hui, pourquoi est-il utile de lire et approfondir l'œuvre de Frantz Fanon ? Dans quelle mesure le penseur martiniquais pourrait-il nous éclairer dans certains défis auxquels nous sommes confrontés ? C'est le thème de l'émission de ce soir. Nous verrons pourquoi le révolutionnaire martiniquais, dont la pensée entre en résonance avec nos questionnements contemporains, est aujourd'hui lu et reconnu dans le monde entier. Nous en parlons dans quelques minutes avec Mathieu Renaud. Mathieu Renaud, professeur à l'université Toulouse-Jean Jaurès, qui publie aux éditions Amsterdam, Frantz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale. C'est le titre de ce morceau de Khalid et Swahili sur Aligre FM 93.1. Vous êtes dans version originale. Pourquoi est-il utile de lire et relire Frantz Fanon ? Dans quelle mesure pourrait-il nous éclairer face à certains défis auxquels nous sommes confrontés ? Nous profitons de la parution en format poche aux éditions Amsterdam du livre de Mathieu Renaud pour évoquer Frantz Fanon. Frantz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale, paraît donc en 2011 et les éditions Amsterdam nous le proposent en format poche depuis septembre dernier. Nous n'avons pas fini d'apprendre et de comprendre tout ce que Fanon nous a légué. Nous en parlons avec l'auteur du livre, Mathieu Renaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus à l'antenne d'Aligre FM, Mathieu Renaud. Vous êtes professeur en histoire critique de la philosophie à l'université Toulouse Jean Jaurès et donc de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale. C'est le titre donc de votre ouvrage sur Frantz Fanon. Rappelons en quelques lignes avant d'entamer notre discussion, rappelons en quelques lignes qui est Frantz Fanon. Il est né donc en 1925 à Fort-de-France en Martinique. Après avoir combattu en Europe et en Afrique du Nord dans les rangs de la France libre, il suit des études de médecine à Lyon à 27 ans. Il publie Peau noire et masque blanc, médecin psychiatre. Il approfondit son expérience clinique au centre hospitalier de Saint-Alban en Lozère. Lorsqu'il est muté à Blida en Algérie, il s'engage dans la lutte anticoloniale. Il meurt à 36 ans en décembre 1961 d'une leucémie au moment où paraît son livre le plus connu, Les damnés de la Terre. Dans votre livre à vous, Mathieu Renaud, au sujet de l'œuvre et la pensée de Frantz Fanon, vous faites, comme vous l'écrivez, le pari de la non-biographie, c'est-à-dire une théorie fanonienne qui maintient une relation étroite avec l'expérience vécue, mais qui n'est pas pour autant assujettie à cette expérience vécue. On a tendance donc à percevoir Fanon dans deux dimensions opposées, le militant et le théoricien. Et là, vous proposez, Mathieu Renaud, une approche nouvelle qui permet de ne pas scinder ces deux aspects, de ne pas les opposer. Au contraire, vous indiquez une voie nouvelle qui permet de conjuguer l'anticolonialisme et le postcolonialisme. Mathieu Renaud, tout d'abord, quelle différence établissez-vous entre la pensée anticoloniale et la pensée postcoloniale ?
Alors, je dirais que c'est d'abord une différence temporelle. La pensée anticoloniale est une pensée qui se développe, on pourrait dire, principalement après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà après la Première Guerre mondiale et finalement dès les premières résistances aux colonisations, aux conquêtes coloniales, donc jusqu'aux indépendances, voilà, dans la suite, dans le courant de la pensée tiers-mondiste, on pourrait dire jusqu'au début des années 80 et des années divers, tandis que la pensée postcoloniale est un courant qui naît d'abord dans le monde anglophone et d'abord dans les universités, un courant académique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas critique et qu'il n'est pas engagé, mais c'est un autre contexte. La pensée anticoloniale, à mon sens, a toujours maintenu d'emblée un lien étroit entre la pratique, pratique d'émancipation, pratique révolutionnaire, et de l'autre côté, la théorie, dans un rapport qui est différent, on pourrait dire, aussi à l'Europe et à la pensée européenne. Et qu'il y a et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est qu'il y a une continuité entre l'une et l'autre, mais qu'il ne faut pas rabattre Fanon ou le réintégrer à une pensée coloniale tout court, mais qui a une genèse, c'est pour ça que je parle d'une généalogie chez Fanon, une généalogie anticoloniale de la critique postcoloniale.
Mais il y a quand même un conflit des interprétations entre d'une part l'anticolonial et le postcolonial.
Alors, le conflit que je soulignais dans le livre, dont vous avez rappelé qu'il a été écrit il y a presque 15 ans, est dû aussi à une situation dans laquelle en France, à la fin des années 2000, la pensée de Fanon était largement méconnue, Il y avait très peu de travaux sur Fanon, de travaux théoriques. Ce qu'on avait en revanche, c'était des biographies, et des biographies d'excellente qualité, des biographies intellectuelles comme celle d'Alice Cherki, et donc une tendance à interpréter Fanon comme un héros révolutionnaire, si on veut, ce qu'il a été aussi, mais en mettant ses apports en particulier théoriques, d'où le geste que j'ai essayé de faire, ce que vous avez rappelé, un pari non biographique dans la lecture de Fanon, et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc le conflit des interprétations était aussi un conflit entre l'interprétation, à tendance biographique, mais qui enracinait quasiment trop Fanon dans son contexte historique et politique, ce qui était important, mais qui le ramenait à ça, et des interprétations postcoloniales de l'autre côté, qui avaient ce défaut, qui avaient cet avantage de mettre largement en avant les contributions théoriques de Fanon, mais qui avaient ce défaut de souvent de détextualiser et de les déshistoriciser. L'enjeu était dans ce livre aussi de réhistoriciser Fanon, de remettre en contexte, dans un contexte qui était un contexte intellectuel comme un contexte politique, et peut-être que j'ai plus insisté sur le contexte intellectuel et que je ferai un peu différemment si je referais aujourd'hui, donc plus insisté là-dessus, tout en montrant les innovations qu'apportait la pensée de Fanon au sein de la pensée anticoloniale, et plus largement essayer de montrer ce que cette tradition anticoloniale à laquelle il appartenait pleinement avait de singulier, en fait, remettre au jour la singularité de ce courant, de cette, on pourrait même dire, de cette tradition, tradition politique et tradition intellectuelle, qui est l'anticolonialisme, où Fanon n'est jamais seul, où il côtoie beaucoup d'autres intellectuels moins connus que lui.
Alors je suis en lisant ce livre, Mathieu Renaud, assez surpris qu'il y ait eu donc, alors bien sûr vous, ce que vous faites effectivement c'est très clair par rapport à ces deux interprétations qui parfois sont opposées, je suis même surpris de voir que ça a existé ces deux interprétations, dans la mesure où on considère que Les damnés de la Terre, donc le dernier livre de Frantz Fanon, avec l'orientalisme d'Édouard Saïd, comme un livre fondateur des études postcoloniales. Fanon est considéré comme l'un des précurseurs de la critique postcoloniale. Et comme si à certains lecteurs, si je puis dire, certains lecteurs avertis, qui ne voulait pas voir ce deuxième aspect. Comment est-ce que vous l'expliquez justement ? Est-ce parfois il y avait, est-ce que c'est la violence qu'il préconisait qui fait qu'on ne voulait pas voir ce deuxième aspect ?
Alors, ouais, il y aurait plusieurs choses. Je pense aussi que la lecture postcoloniale qui a été faite de Fanon à partir des années 80 s'est largement centrée sur le premier livre de Fanon, Peau noire, masque blanc, plutôt que sur le second, Les damnés de la Terre, qui lui avait alimenté toute la pensée révolutionnaire, tiers-mondiste, anti-impérialiste à l'époque. Je mettrais une différence avec Édouard Saïd. Édouard Saïd, lui aussi, a été, d'ailleurs, je pourrais y revenir après. Édouard Saïd, son livre L'Orientalisme a été considéré comme un livre pionnier des études postcoloniales. Je pense que c'est un peu différent pour Fanon, au sens où Fanon a été réintégré dans une histoire plus longue du postcolonialisme, on pourrait dire, mais quasiment malgré lui, c'est quelque chose qu'il n'avait pas connu. Et sur Édouard Saïd, ce qui est assez amusant, c'est que je travaille en ce moment sur sur Saïd, sur le corpus Saïd, sur ses écrits sur la Palestine. Et c'est très amusant de voir que le Saïd des écrits sur la Palestine, de la question de la Palestine, etc., s'intègre, enfin on voit dans son langage, jusque dans les années 80 et les années 90, à l'intérieur de la tradition anticoloniale. Donc il y a une sorte de continuation de l'anticolonialisme jusqu'à nos jours, tout simplement parce qu'il existe encore aujourd'hui des situations coloniales à proprement parler, que ce soit en Palestine, pour en citer d'autres, en Kanaky et autres. Et si Fanon a été considéré, ou si on pourrait dire intégré à la généalogie de la pensée postcoloniale, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est un des premiers, pas le seul, mais quand même un des premiers à essayer de penser les effets subjectifs de la colonisation sur ses victimes, sur ses objets, les colonisés, c'est-à-dire de prendre le point de vue des colonisés pour penser ce qui se passe dans les colonisés. Pas, et c'est sûrement pas un point de vue de surplomb sur la situation, même s'il était critique, mais un point de vue incarné. Qu'est-ce que ça fait, et la même chose sur le racisme d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait aux Noirs, en l'occurrence dans Peau noire, masque blanc, d'être l'objet du racisme ? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la situation du colonisé, et comment, depuis cette situation, il faut repenser et reformuler les outils critiques que s'est donné l'Occident, que ce soit le marxisme, la psychanalyse aussi d'un certain point de vue. Et je ne suis pas certain que la théorie de la violence de Fanon, dans ce qu'elle a de plus radical dans Les damnés de la Terre, a bien été interprété dans le courant postcolonial comme si on ne savait jamais trop quoi en faire, parce que cette théorie de la violence qui ouvre les damnés de la terre de Fanon, finalement, s'inscrit dans une autre tradition. C'est ce que j'ai essayé de montrer, mais plutôt après le livre, qui est tout simplement la tradition, on pourrait dire, marxiste et anti-impérialiste, aussi de la guerre de guérilla. Enfin, c'est aussi à cette histoire qui appartient à Fanon, qui représente vraiment un moment de transition entre deux moments. Il appartient à la pensée, je disais, à la pensée anticoloniale, mais plus généralement la théorie révolutionnaire de toute la première partie du XXe siècle. Et par certains aspects, mais c'est aussi un effet de ses relectures, il y a plein à puiser pour une théorie postcoloniale qui s'est d'abord intéressée à la manière dont la pensée européenne devait être déplacée, à la fois critiquée, reprise, mais aussi remise en question pour pouvoir penser des situations non européennes.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
Je suis en lien avec Mathieu Renaud pour parler de son livre Franz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale, publié aux éditions Amsterdam. Mathieu Renaud, comment expliquez-vous que vous le soulignez en page 289 de votre livre, comment expliquez-vous que la décolonisation des savoirs soit l'un des moindres soucis de Fanon? Qu'est-ce que cela signifie déjà, décolonisation des savoirs, et pourquoi il y semble y accorder peu de place?
Alors, décolonisation des savoirs, c'est tout simplement l'idée que dans les projets d'expansion, de conquête, de maintien de l'ordre colonial, des savoirs ont été impliqués, savoir juridique, le savoir historiographique, d'une certaine manière, tous les savoirs psychologiques, l'ethnologie, etc. Et que ces savoirs, ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter à la poubelle selon Fanon, il y a quelque chose à en prendre, il y a quelque chose à en faire, mais à condition de défaire aussi leur inscription dans cette matrice occidentalo-centrée, cette matrice coloniale. Donc c'est un peu ça, tout le geste de Fanon de déplacement, que je disais, de déplacement de la pensée européenne. Je dis, c'est ce qu'il fait en permanence, mais c'est pas son souci du tout de la théoriser comme telle, c'est-à-dire de développer un discours méta sur la décolonisation des savoirs, comme ça a été fait au sein de la pensée postcolonial, au sein aussi de la pensée décoloniale, comme moi aussi j'ai essayé de le faire, tout simplement parce que Fanon est engagé dans une guerre, dans une révolution et dans une guerre, c'est-à-dire qu'il met en pratique cette décolonisation des savoirs, mais que il ne s'attache pas à la pensée en tant que telle. L'enjeu est bien plus immédiat, l'enjeu c'est celui de l'émancipation et de la libération du joug colonial. C'est tout ce que je voulais dire, et c'est pour ça qu'à la fin du livre, d'ailleurs, je parle d'un on peut parler d'un postcolonialisme chez Fanon, mais un postcolonialisme en temps de guerre, ou un postcolonialisme ancré dans un moment de guerre et qui pensait la guerre, parce que c'est aussi ça que j'essaye de dire, c'est que on parle de théorie de la violence chez Fanon, théorie de l'émancipation par la violence, il faut le dire, mais on ne peut pas comprendre cette théorie de la violence chez Fanon si on n'oublie pas que c'est aussi une théorie de la guerre.
Je reviens justement.
De la guerre révolutionnaire.
Je reviens justement sur ce point-là, parce que c'est souvent un aspect qui, aux yeux de certains lecteurs, peut paraître ambivalent. Quand il parle effectivement, vous écrivez, Mathieu Renaud, page 292, la critique postcoloniale de Fanon est indissociable de sa théorie de la violence, et il ne faut pas oublier qu'elle se concrétise dans une situation de guerre. Donc, pour lui, la violence agissait comme un instrument de résurrection. Mais de quelle nature est cette violence, justement? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour enlever toute ambivalence dans cette notion-là?
Il dit même, la violence désintoxique, elle est vraiment le premier moment du soulèvement. Ça, il le dit. Mais ce qu'il dit aussi, tout d'abord, c'est que c'est un... Il y a une sorte de spontanéité ou un mécanisme, causal, et il dirait même un mécanisme quasi vital, où la violence et le premier acte de rébellion dans un contexte où le colonisateur s'attaque à la vie même du colonisé, à sa subsistance, à son existence. La violence est d'abord, dit toujours Fanon, une contre-violence. Mmh. Au sens où l'ordre colonial est un ordre, dit-il, qui règne par la violence, qui se maintient par la violence, hein, c'est pas seulement la violence de la conquête, c'est la violence permanente, structurelle, de l'ordre colonial, dont il va même dire qu'elle est fichée, hein, dans les corps, dans les muscles décolonisés. Et donc il y a un moment de décharge violente, spontanée, qui est le premier moment de la lutte de libération nationale chez Fanon, mais dont Fanon, et parfois on s'arrête là et ça va pas, parce qu'en fait on comprend pas Fanon, ce que fait Fanon dans Edda et la Terre, et c'est ça son principal problème, il est plus grand que le problème de la violence tout court, c'est voir comment cette, on pourrait dire, conversion à la violence avec laquelle commence la lutte de libération nationale va pouvoir donner lieu, ou pas, à une conversion de la violence en autre chose, c'est-à-dire en politique, ce qui est un vieux problème du marxisme, hein, mais que Fanon pousse jusqu'à ses extrémités. Comment la force ou la violence, on peut la transformer en autre chose, en lutte politique organisée à proprement parler. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus d'opposition chez Fanon entre la spontanéité et l'organisation. Enfin, c'est vraiment pensé d'une manière assez dialectique. Et aussi, l'autre aspect très important chez Fanon, c'est que cette violence, elle est censée désintoxiquer, elle est une affirmation de subjectivité, je ne sais pas, chez Fanon. Mais en même temps, il faut lire le dernier chapitre des Damnés de la Terre sur les troubles mentaux induits par la guerre, et où Fanon a très bien compris que ces troubles, ils valent à la fois pour le colonisé et pour le colonisateur, et surtout, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il va y avoir des traces profondes de cette violence, à la fois la violence subie et la violence exercée, au sein des psychés et de la société algérienne tout entière, et qu'il faudra comprendre ce qui peut être fait pour s'en débarrasser. Donc c'est vraiment une lecture qui n'a rien de simpliste de la violence chez Fanon.
Puisque vous nous aviez dit, Mathieu Renaud, que vous travaillez actuellement, si j'ai bien compris, sur Edouard Saïd, donc resituant rapidement, donc c'est un intellectuel palestinien qui, comme j'ai rappelé avec Fanon, sont considérés comme les deux fondateurs des études postcoloniales dans les grandes lignes. Hein. Alors c'est vrai que ça prend du temps. Quels sont les points communs entre ces deux pensées, dans leur approche sur la question postcoloniale, quelle différence, quelle similitude y a-t-il entre ces deux penseurs?
Alors, à première vue, on pourrait dire, mais c'est justement ça que j'essaie de remettre en question en ce moment, c'est que Saïd est d'abord un intellectuel et un académique, tandis que Fanon était quelqu'un engagé à la fois dans une pratique clinique, une pratique psychiatrique et aussi dans une pratique politique. Mais c'est ça aussi peut être remis en question, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, en tant que Saïd a été un grand militant de la cause palestinienne, engagé, pas avec les armes, c'est une autre question, mais de bien des manières, dans les médias, en prenant des risques. Il a été menacé, Donc là, de ce point de vue-là, il y a aussi un point commun politique. Il appartient aussi à cette tradition, anticoloniale, Edouard Saïd. Sur du point de vue théorique, je pense qu'il y a une influence de Fanon sur Saïd qui est notée à plusieurs moments par Saïd, qui parle de Fanon. Il y a Saïd parle un moment, il dit, il fait des lectures en contrepoint de la lecture de la littérature en particulier, britannique, parce qu'il était professeur de littérature comparée d'abord. Lecture en contrepoint, ce qui veut dire manière de faire jouer les textes contre eux-mêmes, C'est-à-dire relire des textes pour essayer de les faire jouer contre eux-mêmes, d'essayer d'y trouver les failles, d'essayer de les observer ou de les relire d'un autre point de vue, quel point de vue du colonisé ou du point de vue extra-européen. Et au fond, Fanon fait ça lui-même en permanence. Il ne va pas dire, voilà, je vais Freud, voilà ce qui va, voilà ce qui va pas, de manière abstraite, du point de vue d'un psychisme plus ou moins universel. Il va dire, voilà, je situe Freud aux Antilles, dans la Caraïbe, qu'est-ce que ça fait à la lecture de Freud et en quoi il faut réécrire le texte freudien pour que ça fonctionne dans ce cas qui est celui qui m'intéresse. Il n'arrête pas de faire ça, de relocaliser les textes et de les transformer, de transformer ce qu'ils contiennent à partir de cette relocalisation. Et je crois que ça, c'était un geste typique de la pensée postcoloniale que les deux auteurs partagent.
Comment est-ce que la pensée de Frantz Fanon s'articule-t-elle avec celle de la négritude portée par Senghor et Césaire?
Alors, il y a différents moments, enfin, c'est la même chose, on ne peut pas dire Fanon appartient pleinement au courant de la négritude ou Fanon est un critique de la négritude. Déjà, dans son livre Peau noire, masque blanc, il y a une sorte d'ambivalence, hein, parce qu'il va commencer à critiquer Sartre pour dire Sartre a pensé la négritude que comme un moment négatif du processus d'émancipation, un moment qui doit lui-même être dépassé vers autre chose, vers une humanité sans race, en gros. Mais à la fin du livre, dans la conclusion, il commence à s'opposer à la négritude en tant qu'elle consiste, hein, on pourrait le dire comme ça en reprenant le titre de son livre, à revêtir des masques noirs à la place des masques blancs, mais qui n'en restent pas moins des masques. Mais dans Les damnés de la Terre, je crois qu'il y a sa conception. Et juste quelque chose, c'est que la négritude, pour lui, n'est pas un mouvement tout à fait unifié, et qu'il a quand même une lecture très différente de Senghor, envers lequel il se montre plus critique, largement plus critique qu'envers
Césaire.
Aimé Césaire. Mmh. Pour lui, Césaire, c'est autre chose. Et en fait, cette distance entre les deux, je pense que pour lui, était énorme. Mais dans Les damnés de la Terre, en gros, il va dire la négritude, il va revenir à cette idée, hein, la négritude, c'est un moment dans les luttes de libération nationale, c'est un moment de repli, mais pas en un sens négatif, sous la forme d'un mécanisme de défense et de fermeture ou d'une manière de se protéger des influences du colonisateur. Et là, il élargit largement le sens de la négritude, hein, à ce qu'il appelle une forme de contre-assimilation. Se préserver, ça c'est plutôt dans son livre L'an 5 de la Révolution algérienne, hein, qui est un peu moins connu, mais qui est vraiment tout aussi intéressant que les deux autres, et où il dit en gros, dans un premier moment, le colonisé doit refuser la langue du colonisateur, on parle en arabe, on ne parle plus en français, il doit refuser les techniques, il y a un chapitre sur la radio, mais aussi les savoirs médicaux, voilà, ça c'est un premier moment, on se protège, on crée des barrières. Ça, c'est pour se préserver et pas pour ne pas être absorbé. Mais il va dire, quand la lutte de libération nationale commence réellement, là, il y a une capacité, une possibilité de se réapproprier les dons, entre guillemets, du colonisateur, sans être inféodé à lui, sans subir sa domination, et en les transformant, en les réutilisant. Bon, ça, c'est le schéma qu'on retrouve partout dans son livre L'enceinte de la révolution algérienne, donc c'est une sorte de, à un moment il dit même de réinvention, de ce qu'a apporté le colonisateur. Donc c'est pas une, c'est invention, c'est vraiment une réappropriation, mais qui recrée et qui supprime tout lien de dépendance. C'est-à-dire qu'on peut, on peut prendre ce qui vient du colonisateur sans que ça implique une dépendance vis-à-vis de lui.
Mathieu Renaud, dans le monde dans lequel nous vivons n'est plus celui de Frantz Fanon, bien sûr. Pourtant, sa dimension intellectuelle, son statut d'icône intellectuelle n'a fait que croître. Comment pouvez-vous expliquer cela ?
Aligre FM 93.1.
Je vais parvenir sur ce qu'on a dit sur les études postcoloniales, qui tient vraiment à la puissance, je pourrais dire, intellectuelle de Fanon et au fait que tout le monde s'est rendu compte que dans la situation postcoloniale, cette fois-ci au sens temporel, il restait des traces, des résidus et qu'il y a des choses qui se reconfiguraient. Voilà, c'est une première chose. Mais au fond, je pense qu'il y a plus que ça, c'est que c'est pas seulement des traces, hein, c'est tout simplement, premièrement, qu'il y a une persistance de situation coloniale au sens le plus brut du terme, hein, avec la violence qui la caractérise, et que dans ces contextes-là, enfin, Fanon est d'une actualité frappante, hein. Il y a des lectures de... Là, il y a un colloque qui se prépare, par exemple, en Cisjordanie, sur Fanon et la Palestine. C'est peut-être pas pour rien que... Voilà, notamment sur cette question de la violence et sur d'autres. Donc il y a cette actualité de Fanon qui est une actualité des situations que Bien décrivait Fanon malheureusement. Voilà, Fanon est quand même utile aussi pour penser plus largement les questions liées au racisme et voilà, ce qui persiste du colonialisme, comme je disais. Précédemment, Fanon a trouvé un regain. Je pense que le retour de Fanon, en tout cas dans le monde francophone, est dû aussi à ce qui s'était passé aux émeutes, aux révoltes des banlieues de 2005. Il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là aussi, avec l'émergence de mouvements qui se sont appropriés, qui ont repris Fanon. Et le fait, il me semble que au cours des 10 dernières années, c'était pas encore le cas au moment où je faisais ma thèse, et je crois pas que c'est le cas dans ma thèse, où malgré tout, maintenant que mon livre, mais c'est à peu près la même chose, quand je la relis, où je me dis qu'il y a quand même un point de vue qui est d'abord celui donné par Peau Noire, Masque Blanc, le premier livre de Fanon. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment Les Damnés de la Terre qui est le livre de Fanon qui a le plus d'actualité, et comme ça avait été le cas dans les années 70, dans une conjoncture qui était une conjoncture plus révolutionnaire, on pourrait dire.
Mathieu Renaud, comment est-ce que, parlons un peu de vous par rapport à votre sujet, comment est-ce que vous avez été amené à travailler sur Frantz Fanon, sur l'œuvre de Fanon?
Alors c'est... Moi, j'avais j'étais en philosophie, j'ai une autre formation avant, mais quand j'ai commencé la philosophie, très vite, je voulais travailler sur la question du racisme. Je dirais même pas la question raciale ou la question de la race, parce que c'est des termes qui étaient beaucoup moins employés avant, mais je me tournais vers un corpus qu'on peut dire plus classique. Bon, il y avait Hannah Arendt, Colette Guillaumin qui est très, très, intéressante évidemment, et puis après c'est une sorte de concours de circonstances. J'ai découvert Fanon dans la bibliographie d'un cours que je suis à l'université de Nanterre avec Étienne Balibar et Bertrand Gilvy. J'ai trouvé le livre Les Damnés de la Terre justement chez ma sœur que j'ai lu, et je me suis dit que j'allais commencer à travailler là-dessus pour ce cours. Voilà, après j'ai eu de la chance que Étienne Balibar, mon professeur, me dise que ça valait vraiment le coup de continuer, parce que, pour tout dire, il y a d'autres professeurs en philosophie qui disaient que, enfin, après que j'ai fait mon master sur la question, qui disaient, bon, ça suffit, Fanon a un master, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Ça montrait un peu l'ambiance de l'époque. Donc j'ai continué à travailler dessus, et au départ, c'est vrai que la première lecture n'a pas été foudroyante pour moi. Hein. Je l'ai trouvé très intéressant, j'ai pas... Je trouvais ça incroyable, tout simplement parce que rien dans ma formation me préparait à lire ça. Rien ne me préparait, et rien dans mon dans ma propre expérience. Hein, je pense que bien sûr c'est différent pour d'autres, mais pour moi, il aura fallu le détour à un moment par des lectures anglophones, par le courant des études postcoloniales, mais aussi tout des courants d'études africaines, américaines, pour vraiment percevoir ce qu'était l'originalité de Fanon, et pour trouver ma propre voie. Donc ce détour par le monde non francophone a été essentiel, parce que sinon je ne suis pas sûr que, comme je disais, il n'y avait pas encore grand chose sur Fanon en France, ou je suis pas sûr que juste par moi-même j'aurais été capable d'en faire une lecture comme celle que j'ai essayé de faire.
Donc de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale. Donc Frantz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale, c'est édité aux éditions Amsterdam. Merci Mathieu Renaud, merci infiniment.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
تحت كل حجرة ظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي. فكل ما تسألوني انتي مين، راح احكي لكم عن قوتهم وكيف احفادهم صامدين.
فات الوقت عمري راحوا سنين ما ناسي هذي عوام را الخطر مجروح. فات الوقت عمري راحوا سنين ما ناسي هذي عوام را الخطر مجروح.
Musique de Sonne Vandera et Mac Abdoul sur Aligre FM 93.1. Juste le temps de vous rappeler le titre du livre de mon invité, Mathieu Renaud, qui était à l'antenne avec nous depuis Toulouse. Frantz Fanon, de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale. Comme je vous disais, notre format est plus court que d'habitude ce soir. Samedi prochain, on se retrouvera pour un entretien donc d'une heure plus long. Merci à vous, amis auditeurs et amis auditrices, de nous avoir suivis. À la réalisation technique ce soir, c'est Renaud Poussin. Merci Renaud. Dans un instant, donc, une page musicale. Ensuite, vous retrouvez à 21h Dancehall Reggae Vibes et à 22h30 Audiométrique. Bon week-end, bonne soirée. À samedi prochain sur Aligre FM 93.1.
Version originale, Patrick, Léon Émile.
I was outside. Had a pretty girl and a fast car, I was 21. I ain't just anyone, better talk to me nicely. And you know the weapon on me, or it's on my best friend. When I'm in the West End, I had a wish. God knows I wouldn't believe when I was a kid. Kill off if you wanna leave, there's plenty of fish. And I know the bullet that kills you comes with a kiss. It's just how it is. Oh,
assez de temps perdu, baby. Faut faire la monnaie, baby. J'ai cherché la monnaie très vite. Assez de temps perdu ici. Assez de temps perdu, baby. Vu que la maison ne fait pas crédit, j'ai dû chercher la monnaie très vite. Assez d'attente, finis-nous l'enveloppe. J'ai des affaires qui m'attendent à 7-8 heures de vol. Je te conseille de faire gaffe si tu t'emportes. Je porte mon meilleur ami sur mon jean si je vois que tu me bloques.
J'ai sous à l'échelle, oui.
Vite en
Santiago.
Make I travel overseas.
Jamaica or Bagabana.
Had a dream, I had a dream.
Martin Luther or Obama.
Now my family was free.
Leur offrir Dolce & Gabbana.
Sabi, all a plenty.
Enjoy toute la mañana.
Mercredi to vendredi.
Litton ou Balenciaga.
Jesus à l'échelle.
Obsidian, check Parisian, ringside, box full of white like Dillian. Me and my Killian form like Killian. Birkin, crocodile, like Skillabank, sick of them. Turned to a Richmond, tricking them. Any type of on sale, consider them. King Charles, tech with a prince, get rid of them.
No limit, je viens pour casser la porte, elle est terminée. Je viens pour casser les codes, on a sans limite. Ne vous inquiétez pas, c'était pas voulu. Si on me retrouve autour de Nathalie, ou de la Keisha et Stéphanie. Sors de bikini, de la valise, un cocktail pour s'emballer. Assez d'attente, finis-nous l'enveloppe. J'ai des affaires qui m'attendent à 7-8 heures de vol. J'te conseille de faire gaffe si tu t'emportes. J'porte mon meilleur ami sur mon jean si j'vois que tu m'bloques. Every girl want a boy like me. Elles connaissent pas, c'est mon train de vie. Comme Skilly Bang, j'ai les cocos d'Haïti. J'ai sécurisé Neverland pour toute une nuit. On pourra enjoy, enjoy toute la nuit. Notre présence vaut déjà un Grammy. Ou une médaille d'or aux Jeux Olympiques. À me répéter encore.
J'ai à l'échelle, oui.
Vuitton, Balenciaga.
Make our travel overseas.
Jamaica, Bagabana.
Had a dream, I had a dream.
Martin Luther, Obama.
Now my family was free.
Leur offrir Dolce.
Sabi, all a plenty.
Enjoy toute la mañana.
Mercredi tout vendredi.
Litton ou Balenciaga.
Jesu à l'échelle, oui.
Martin Luther, Obama.
Had a dream, I had a dream.
London, Paris, Ottawa.
La
shut. watch me share with me.
Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te
sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cooking, shaving, and touching basements and bases. Bet they try to make it up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play, waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.